Voilà, ok, je vais parler plus fort. Quivers, c'est un village, on peut dire, cathare, parce qu'il y a un château cathare, et qui est un peu la raison pour laquelle les gens viennent visiter Quivers. Et en fait, c'était très connu au Moyen-Âge, le château de Quivers, parce que c'était un centre culturel pour les troubadours. Donc, Aliénor d'Aquitaine a organisé de grandes fêtes à Quivers. Et il y a des écrits qui rapportent qu'un grand nombre de troubadours sont venus à Quivers jouer. Parmi eux, on a eu Bernard de Ventadour, qui était le vrai star des troubadours. Il a joué à Quivers, par exemple. Donc voilà, et cette énergie reste un petit peu dans la ville, je trouve. Donc moi, je travaille au château, je fais les visites guidées du château de Quivers et compter, parce que c'est plus intéressant quand c'est compté, quand c'est pas juste l'histoire, les faits secs. Donc je compte un peu dans mon travail, beaucoup d'ailleurs, et je chante aussi les chants des troubadours. Donc, ça fait voilà, une petite visite intéressante du château et entremêlant l'histoire et la musique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Perceforest, qui est un roman arthurien très, 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 très long. Voilà, c'est plusieurs livres. C'est en fait le roman le plus long dans la langue française, le roman le plus long du Moyen-Âge. Et dans ce roman, comme dans beaucoup de romans du Moyen-Âge, il y a beaucoup de folklore, parce que c'est ça qui faisait les écrivains à l'époque. Ils écrivaient leur grand récit avec une raison, ils voulaient prouver quelque chose. Donc, dans Perceforest, il veut prouver qu'il y a un lien entre les rois. Comme vous avez dit, il y a une lignée entre le chevalier Lancelot et les rois de Bretagne et de Grande-Bretagne. Donc, c'est une espèce de traçage de lignée. Mais nous, ce qui nous concerne, ce n'est pas tellement ça, c'est plutôt le fait que dans ce grand roman, il y avait beaucoup de petits contes. Et ça, c'est le côté un peu plus mystérieux du roman, voilà, où donc l'écrivain a dû entendre ces contes et les mettre dedans. Alors, il a mis dedans le conte de la Belle au bois dormant. Et donc, c'est une preuve aussi que ce conte circulait à l'époque déjà. Et c'est très intéressant de lire le conte dedans. Et c'est pas facile de le lire parce que c'est étalé sur plusieurs livres. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur une traduction en anglais du conte entier parce qu'il faut vraiment le mettre ensemble en lisant un énorme roman pour trouver tous les éléments du conte. Mais il y a une dame qui s'appelle Susan McNeill Cox et elle a repéré tous ces partie du conte et elle les a mis ensemble. Donc, je vais vous dire le conte qui s'appelle l'histoire ou the tale, le conte de Troïlus et Zélandine. Comment c'est étalé? Je vais le raconter, moi, en ordre chronologique, mais dans le roman, ce n'est pas en ordre chronologique. Parce que c'est ça qui est un petit peu intéressant de ce roman, c'est que on alterne de différents points de vue, mais en général, c'est le héros Troïlus, qui devient plus tard, dans les versions plus tard, un prince, mais qui n'est qu'un simple chevalier. Beaucoup, c'est ses découvertes, c'est ce qu'on lui raconte. Donc, il va parler avec la vieille, il va parler avec la déesse Vénus. Il va parler avec différents personnages et petit à petit, l'histoire va être révélée à l'héros. Donc, il y a quelque chose de mystérieux déjà dans cette structure. Mais moi, je vais le raconter en ordre chronologique des événements. Donc, on commence l'histoire avec la cérémonie de baptême de la princesse Zélandine. Elle est la fille du roi de Zélande, qui est une île, on peut dire, imaginaire, située quelque part entre la Grande-Bretagne et la Bretagne que vous connaissez. Donc, cette cérémonie de baptême est quelque chose entre rituel et théâtre et coutume, dans le sens que on a invité trois femmes à venir au baptême d'un enfant. Et dans le conte, ces trois femmes sont les trois déesses du destin. Ok? Donc, ce ne sont pas des fées, ce sont des déesses. Et c'est clair que ces déesses sont une référence aux trois moyens grecs, aux trois parcs romains. Donc, ces déesses sont invitées. On met la table pour elles. Bon, les femmes mettent la table. On met pour chaque déesse qui va arriver une assiette, une tasse et un couteau. Voilà, donc les femmes ont fait ça pour le baptême de Zélandine. Les trois déesses arrivent, mais il y a un couteau qui manque sur la place de la troisième déesse. Et tout le monde sait qui est la troisième déesse, voilà. Parce que comme ces déesses représentent les trois moyens ou les trois parcs, bon, la première, c'est celle qui reçoit la vie, qui accouche. La deuxième, c'est celle qui mesure la vie ou qui vit, qui est dans la plénitude de la vie. Et la troisième, c'est celle qui coupe le fil de la vie. Donc, c'est cette troisième déesse qui est insultée, offensée, parce que son couteau n'est pas sur la table. Donc, voilà, on va expliquer plus tard le symbolisme. Là, on est juste dans le résumé. Donc, elle se fâche et elle dit, bon, voilà, moi, je n'ai pas été respectée. Alors, finalement, oui, cette fille, elle va vivre, elle va avoir un corps sain et beau, mais c'est tout. Mais quand elle arrive à l'âge d'adulte, en filant, elle va tomber dans un sommeil profond. Et c'est tout ce qu'elle dit. Et puis, voilà, terminé. Pour le moment, pour l'histoire de Zélandine. Et maintenant, on continue et on rencontre le héros de l'histoire qui s'appelle Troilus de Royalville en Écosse. Voilà, il est écossais. Vive l'Écosse. Et alors, lui, c'est un jeune homme qui veut devenir chevalier. Il n'est pas un prince. OK? Il veut devenir chevalier et son mentor lui dit « Ah, bon, pour devenir chevalier, jeune homme, il faut que tu aies une dame que tu aimes. Il faut que tu te parles pour une dame. C'est ça, la chevalerie. » Et lui, il est puceau, voilà. Il n'a jamais aimé une femme. Il ne connaît pas l'amour. Alors, il est bien embêté. Et puis, en plus, il est vaincu dans un combat par un chevalier qui, lui, oui, il a une dame. Et ce chevalier lui dit, bon, c'est parce que moi, je suis amoureux. Ça me donne la force. Donc, ce chevalier s'appelle Zélandin. C'est un prince et c'est le frère de la princesse Zélandine. Alors, il invite Troilus chez lui, à son château. Et là, Troilus rencontre cette princesse. Il tombe amoureux d'elle. Et elle aussi, elle tombe amoureuse de lui. Donc, c'est réciproque. Il la demande, est-ce que je peux devenir ton chevalier? Et elle dit oui. Elle lui donne son écu. Et alors, à partir de ce moment, il est devenu un vrai chevalier. Il participe à un grand tournoi. Et après, comme un vrai chevalier, il est appelé par son roi, qui plus tard devient le roi Perceforest du titre du roman, à faire différents exploits qui font des chevaliers, à à participer dans les guerres, à sauver des personnes, etc., etc. Donc, Troïlus repart et le prochain événement dans l'histoire, c'est que Zélandine, comme c'était prophétisé, en voulant filer, elle pique le doigt sur les chardes de lin et elle tombe dans un sommeil profond. Son père lui met dans une tour très élevée avec une fenêtre vers le soleil. Et lui, c'est la seule personne qui a accès à cette tour. Donc, et le père dit, la seule personne que je veux qui peut venir rencontrer ma fille maintenant, c'est le Dieu soleil. Donc voilà, le père, il est un peu, voilà. On voit que le père devient de plus en plus fou, en fait, dans cette histoire. Mais Troïlus, après quelques aventures loin de là, il revient et il entend parler d'une vieille, de qu'est-ce qui s'est passé, qui a cette fille qui dort profondément, etc., etc. Donc, il va au temple des trois déesses et il commence une relation avec Vénus. Il commence à parler avec Vénus et Vénus commence à lui parler. Parce que dans ce roman, les trois Moïres ont différents noms. Donc, au lieu d'être Clotho, Lachesis et Atropos, elles s'appellent... voilà, la dernière s'appelle Thémis. Vénus prend le rôle de la deuxième, la vie. Et je ne me souviens pas comment ça... Ah, Lucina, c'est la première. Voilà. Donc, et Vénus commence à le conseiller qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller cette fille. Et donc, il commence à écouter l'histoire et tout ça s'est présenté comme une guérison. Donc, Troïlus lui-même, il est guéri par Vénus dans le temple et puis c'est lui qui se charge d'aller guérir la princesse Zélandine qui est enchantée, voilà, ou envoûtée dans la tour. Donc, il y va. Il n'y a pas de forêt à croiser dans cette histoire. Il doit traverser un fossé en nageant. Et puis, il y a un zéphyr dans la forme d'un oiseau qui l'aide à monter jusqu'à la fenêtre de la tour. Il entre dans la pièce. Il trouve la princesse Zélandine endormie, il lui parle, elle ne répond pas, il lui fait le baiser, voilà, célèbre, et elle ne se réveille pas avec ce baiser. Donc, il est un peu choqué, il ne sait pas quoi faire. Et puis, il la touche, rien, mais elle n'a pas l'air morte non plus. Et puis Vénus lui dit, allez, sois un vrai homme. Là, il y a une femme, vas-y. Alors, au début, il ne veut pas. Mais progressivement, Vénus arrive à le convaincre. Et finalement, elle l'enflamme de désir. Alors, il enlève la couverture. Et en fait, Zélandine est complètement nue, voilà, sur le lit. Et il se met à côté d'elle et il lui donne des milliers, des centaines de milliers de baisers. Et finalement, il est tellement enflammé de désir qu'il passe à l'acte. Avec Zélandine, il fait tout, le total. Et Zélandine, elle ne se réveille pas même pendant tout ça, mais dans son sommeil, elle pousse un grand soupir. Wow. C'est encourageant pour notre pauvre héros, mais quand même, il est un peu en choc. Voilà. Et il est humilié, il est choqué, il ne sait pas quoi faire. Il n'attendait pas ça et on voit vraiment son désarroi. Et en plus, l'oiseau maintenant réapparaît à la fenêtre et dit, il est temps, il faut que tu pars. Et pour lui, ça, il n'a pas guéri la princesse. Voilà.
Impuissant.
Voilà, il se sent impuissant, exactement. Et il ne sait pas quoi faire, mais c'est le moment de partir. Donc, il saute sur le dos de l'oiseau Et juste à ce moment-là, le père de Zélandine, qui a vu que les bougies brillaient ultra fort, il arrive et il voit cette apparition, cet homme qui part sur le dos de l'oiseau. Voilà. Donc, et petit à petit, le roi, qui n'est pas personne dans le royaume, est endormi. Hein, c'est que la princesse. Le roi se rend compte que sa fille est enceinte. Et il pense que c'est justement comme il voulait, c'est le dieu soleil qui est venu sur un oiseau pour la féconder. Donc, en fait, il est heureux. Et voilà, donc ça, c'est tout ça. Troël, c'est parti. Zélandine est enceinte et après 9 mois, elle accouche d'un garçon. Alors, pendant l'accouchement aussi, elle ne se réveille pas, mais quand le bébé cherche son sein, il tombe sur son doigt et il suce le doigt où il y a le char de lin et c'est ça qui la réveille, voilà, dans la présence de sa tante, ok? Et alors, voilà, donc la princesse se réveille, elle se rend compte qu'elle a un enfant, elle n'attendait pas ça non plus. et la tante et son père essaient de tout expliquer, mais elle est aussi en choc. Mais donc, elle se réveille à sa vie de mère. Mais sa vie de mère est de courte durée parce que bientôt l'oiseau revient, prend le bébé et dit « Ne vous inquiétez pas, les déesses vont s'en occuper de cet enfant. » Donc voilà, elle est devenue mère, mais d'un enfant divin, on peut dire. Donc, pendant tout ce temps, Troïlus est reparti dans son champ de bataille avec son roi et il ne peut pas arrêter de penser à tout ça. Il est troublé. Et puis, un jour, dans un rêve, il voit un garçon très, très beau. Et il a une intuition que c'est son fils, mais il ne comprend pas. Alors, il retourne au palais. Et là, cette fois-ci, il monte dans la tour et il rencontre Zélandine et elle est réveillée. Et elle le regarde dans les yeux. Lui, il la regarde dans les yeux aussi. Et c'est là le moment de rencontre entre les héros et l'héroïne. Donc, ils se disent encore les vœux d'amour, ils s'aiment encore. Elle a un peu honte qu'elle a perdu sa virginité, mais il la rassure, il dit, écoute, c'était comme ça. Et ils sont d'accord, c'est honteux pour elle, mais il la rassure disant, oui, c'était c'était pas bien ce qu'on a fait, mais c'était nécessaire dans ce cas exceptionnel. Il fallait que je fasse ça. Donc, et puis, le problème, c'est qu'entre-temps, le roi a promis Zélandine à un autre homme en mariage. Donc, Troïlus doit, comme un vrai chevalier, battre contre son rival. Il gagne. Et à la fin, tous les deux partent dans la nuit en Grande-Bretagne. Parce que ils disent, la princesse laisse un message à son père disant « Le dieu soleil est fâché avec ce mariage avec le rival. Et il ne veut pas que je me marie avec lui, alors il veut que je parte. » Et elle part avec Troïlus, et ça, c'est la fin du conte. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de différences entre ce conte médiéval et les versions après, mais il y a beaucoup de similarités aussi. Et moi, ce que je voulais en parler aujourd'hui, c'est de regarder un peu plus proche les éléments du conte médiéval dans Perceforest qui ont disparu par la suite. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous offrent comme enrichissement de compréhension de ce conte? Donc, la première chose, c'est quand même les trois parcs. Voilà, on est d'accord que Après, ça devient des fées, ou ceci, cela. Mais bon, dans ce conte, c'était quand même trois déesses. Voilà. Ce n'étaient pas des fées qui sont ambiguës. Une fée peut être un être de la nature, ou mauvaise ou bonne. Mais une déesse, c'est quand même une déesse. Donc, on est dans le sacré, on est dans le divin. Et ça, c'est l'ambiance de ce conte depuis le début. Ces déesses ne sont pas n'importe qui non plus. Comme quelqu'un a dit, ce sont des figures dans notre inconscient très profond, archaïque, on peut dire primordial. On peut même dire que ce sont des émanations féminines de vérité féminine. Par exemple, certains voient les trois Moïr ou les trois Pâques comme voilà, la création, la vie et la destruction, ou ce qu'une femme vit chaque mois dans l'ovulation, la vie de son utérus, on peut dire. On peut dire que les trois Moïr sont des émanations des activités de l'utérus d'une femme qui est d'âge de procréer. Donc, on a le moment quand l'œuf est créé, on a le moment quand l'œuf vit, et puis il y a le moment quand l'œuf, s'il n'est pas fécondé, qu'il doit mourir, il doit partir de son corps. Donc, les femmes vivent intimement chaque mois, elles vivent le mystère de ces trois déesses, on peut dire. Donc, c'est des figures archaïques, primordiales, mais féminines, et liées avec la création au féminin. Donc, ça, c'est l'ambiance du conte médiéval. On peut aussi, pour lier ce conte aux idées matriarcales, que c'est quand même trois déesses matriarcales. C'est trois visages de la mère, on peut dire. En plus, elles ont de l'autorité. On ne peut pas disputer avec les trois mères. C'est les maîtresses du destin. Si elles décident quelque chose, n'importe qui tu es, même le roi de Zélande, ne peut pas aller contre ces trois déesses. Mais il a du culot, il est arrogant. Le roi de Zélande a quand même essayé parce qu'il a enlevé... Bon, c'est suggéré dans le conte que le fait que le couteau pour la troisième déesse manque, c'est en fait le roi Zélande qui l'a enlevé. Parce qu'il ne peut pas faire face à l'idée qu'un jour sa fille va mourir. Donc, il a peur de la mort. Donc, en fait, en privant sa fille de la mort, il la prive aussi de la vie en quelque sorte. Il la met dans un état entre vie et mort qui est frustrant pour elle et frustrant pour toute la société. Donc, ça, c'est l'autorité des trois déesses. Et les déesses aussi nous mettent dans le sacré, on peut dire. Voilà, ça, c'est un des motifs de ce conte, je trouve, au Moyen-Âge. C'est l'amour sacré. On va regarder ça un peu plus tard quand on parle du chevalier, du personnage du chevalier. Mais ces trois déesses dans le conte sont les enseignantes du sacré. Donc, les héros, comme vous avez dit, les héros, en fait, il est héros pas parce qu'il fait des choses ou parce qu'il veut. Il suit constamment les conseils de Vénus pendant tout le conte. Il ne sait pas quoi faire et c'est elle qui lui dit, c'est elle qui le guérit. Donc, le héros, c'est un héros, en fait, parce qu'il se soumet à cette autorité qui est quand même une autorité féminine. Alors, un autre élément qui a disparu des versions postérieures, on peut dire, c'est le couteau. Bon, il y a quelque part dans un des contes, il y a quand même une table mise. Voilà. Mais le fait que dans le conte médiéval, c'est très clair, le couteau a été mis sur la table et puis où ça tombait par terre ou quelqu'un l'a enlevé. C'est un peu un mystère, mais le couteau n'est pas là. Donc, le couteau, c'est ce qui coupe, bien sûr, le fil de la vie. Mais moi, je vois dans ce camp, c'est aussi ce qui coupe le cordon ombilical. Donc, en fait, le problème du roi Zélande, c'est que, comme beaucoup de parents modernes, en fait, c'est pour ça que le conte médiéval, en fait, je trouve c'est d'actualité, c'est qu'il ne veut pas couper le cordon avec sa fille. Il la retient auprès de lui, il a peur, il la surprotège, et c'est en fait ça qui la met en danger. Donc, c'est une leçon pour nous parce qu'en tant que bon, moi, je suis parent, je suis mère, et c'est quelque chose que on doit, c'est quelque chose qu'on doit se souvenir de ne pas faire ça, de ne pas empêcher les enfants d'avoir leurs propres expériences. Donc, il y a cette ambiance de cordon ombilical et coupure, ça, c'est présent dans tout le conte médiéval, on peut dire. Le fait que c'est une cérémonie de baptême, c'est une cérémonie qui se passe à la naissance. Donc déjà, on a un bébé qui a été dans le ventre et le conte commence quand ce bébé sort du ventre et va commencer sa vie, va recevoir un nom. Donc, c'est constamment des étapes, des changements d'étapes, d'une étape à l'autre. Et on va voir ça plus tard avec la dynamique du héros et de l'héroïne du conte. Eux aussi passent différentes étapes. Donc, par exemple, si la princesse est dans une relation, on peut dire, symboliquement incestueuse avec son père. Voilà, ce n'est pas une vraie relation d'inceste, mais c'est un peu bizarre quand même qu'il la met dans une tour. Il veut seulement le dieu soleil qui peut la féconder. Bon, ce n'est pas très réaliste. Seulement le dieu soleil est assez bon pour ma fille. Voilà, mais en même temps, lui, il a accès à cette tour. Donc, lui, oui, lui peut aller dans sa chambre. Ça, déjà, pour une fille qui est passée l'âge de l'adolescence, c'est pas clair. Parce que, comme on sait, nous, les parents, il y a un moment qu'une fille doit fermer la porte de sa chambre et les parents ne peuvent plus rentrer. Et on doit toquer. Donc, le roi, en fait, montre un certain manque de respect. Oui. Et lui, il peut venir quand il veut la regarder, tout ça. C'est, voilà. Il manque de respect, c'est presque un viol symbolique du part du père, de sa propre fille. Donc, voilà, ça, tout ça, ça peut nous suggérer les raisons pourquoi cette fille s'endort si profondément. Parce que s'endormir profondément, c'est quand même un certain état de détresse d'un côté. On va regarder ça plus tard. Donc, une autre chose qui manque dans les versions postérieures, c'est le grand soupir. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. La fille, la héroïne dans Perse Forest, elle a quand même un orgasme, OK? Plus ou moins. Qui est bien, non? Maintenant, c'est considéré comme bien, ça veut dire qu'elle vit du plaisir. Okay? Donc, parce qu'il y a des critiques de ce conte, disons que c'est un viol par le chevalier ou le prince de la princesse. Mais le fait qu'elle a un orgasme, c'est un peu un argument contre ça. Elle prend du plaisir de sa présence, même si elle ne se réveille pas encore. Et aussi le fait qu'elle est nue, bon, voilà, ça, on n'a pas ça dans les versions postérieures. Donc, ça, c'est peut-être juste l'esprit du Moyen-Âge qui est un petit peu plus, voilà, vivant et débridé que plus tard. Autre chose, bien sûr, bon, ça apparaît un peu dans d'autres versions, mais pas peut-être aussi clairement. C'est le fait que la princesse se réveille à la naissance de son enfant et à son allaitement. Alors moi, ça m'a parlé. J'ai trouvé là-dedans une certaine vérité psychologique qui est un peu cachée dans la société moderne qui nous pousse à être tout le temps romantique et la présence de l'homme dans notre vie est tellement importante. Mais en fait, dans ce conte médiéval, faire l'amour et tout ça, c'était un plaisir pour la princesse, mais ça ne l'a pas réveillée. Ce qui l'a réveillée, c'est son enfant et ses besoins de nourriture. Donc, c'est un peu, moi, j'ai trouvé ça un peu vrai dans le sens que moi, je me souviens quand j'ai eu des enfants, bon, on peut faire n'importe quoi avant qu'on a des enfants. On peut aller à la fête, on peut fumer, on peut boire, on peut faire des nuits blanches, ceci, cela. Et puis même pendant la grossesse, on peut faire ça aussi. Mais dès que... Bon, on peut, mais ce n'est pas une bonne idée, mais on peut. Mais quand le bébé est là, ouais, voilà, le bébé arrive, ouais, et ça nous réveille. On est là, on veut dormir, mais... On ne peut pas. Ouais, ouais, je veux de la nourriture. Ouais, ouais, qu'est-ce que je fais? Voilà, tu sautes de ton lit, tu vas prendre ton bébé et tu vas l'allaiter. Et là, pour moi, j'ai trouvé ça vrai d'une sens profond. C'est là, à ce moment-là, que boum, la femme, elle devient tout d'un coup responsable. Elle est éveillée dans tous les sens. Elle a un enfant qu'elle doit protéger. Donc, elle développe des sens supérieurs. Elle a l'intuition. Elle sait quand elle croise la route, elle va prendre ses enfants à côté d'elle. Donc, pour moi, ce que j'aimais dans le conte médiéval, que ça s'est adressé.
Qu'il y a c'est vraiment... le petit doigt, c'est pas le sein.
Oui, parce qu'il cherche. Ouais, c'est le petit doigt. Oui. Ouais, j'ai pas trop réfléchi l'importance du petit doigt, mais c'est parce que le bébé l'a guéri aussi, parce que c'est dans le petit doigt où elle a le char, les charmes, il cherche le sein, mais il trouve ça. Et je pense que l'idée, parce que le prince, bon, il n'est pas un prince, le chevalier Troilus voulait la guérir, il voulait que c'est lui qui la guérit. En fait, il a été instrumental dans sa guérison, mais il ne peut pas prendre égoïstiquement tout le crédit pour ça. Il est parti d'un processus de guérison et le fils a aussi son rôle à jouer. On ne peut pas dire que c'est l'homme tout-puissant. L'homme, il a son rôle, mais l'enfant aussi, il a son rôle. Et l'enfant est quand même une création mutuelle entre l'homme et la femme. Donc voilà, c'est dans ce sens, je pense que le conte est plus matriarcal. Pas dans un sens où les hommes sont pas importants, mais juste matriarcal dans le sens que l'expérience et l'importance et l'autorité de la femme, c'est quand même aussi à sa juste place. Que ce n'est pas le modèle un peu catholique, où la femme, c'est un objet de désir, ou une femme de ménage, ou un objet de conquête. Voilà, ici, dans ce conte, la femme, c'est une femme, quoi, une vraie femme qui a toutes ces différentes parties et moments de sa vie, de sa sexualité, de sa création, de son enfantement. Voilà, c'est une femme riche d'expérience.
C'est la Trinité, il y a les trois parts. Et il y a les trois.
Oui, bon, ça correspond aussi aux trois états de la femme, c'est la vierge, la mère et la vieille. Donc il y a ça aussi, dans tous les contes d'ailleurs de La Belle au Bois Dormant. Ok, donc maintenant on va passer un peu, on a parlé assez de la femme et ses expériences dans la sexualité et la maternité. On va passer un peu maintenant à l'homme et le côté chevaleresque du conte. Parce que ça, c'est autre chose aussi qui n'est pas du tout mentionné dans les versions postérieures. Dans toutes les versions postérieures que j'ai écoutées de Perrault, Grimm et tout ça, le héros, c'est un prince. Voilà. Donc, quand il arrive, bon, juste sa présence royale réveille la femme. Mais en fait, dans le conte médiéval, l'héros, c'est un chevalier ou un chevalier en devenir. Donc, il est peut-être, on peut dire, un peu plus humble. Il sait que la femme est nécessaire à son évolution. Voilà. Et lui aussi, il va passer à une autre étape d'être grâce à la princesse. Donc, elle a la clé, on peut dire, pour son passage. Et lui, il a la clé pour son passage à elle. Donc, le fait qu'il est chevalier, ça équilibre un peu le conte, dans le sens que ça met le héros et l'héroïne au début, passent l'un à l'autre un peu dans une relation de miroir, on peut dire. Parce qu'elle, c'est une vierge, voilà, une pucelle, comme on dit souvent, et lui, c'est un puceau. Donc, ils se reflètent l'un et l'autre. Lui, il veut devenir chevalier, c'est la prochaine étape. Et elle veut devenir mère, parce que bon, c'est la plénitude, c'est la prochaine étape. Donc, ils se correspondent, ils se entre-aident dans ce sens-là. Et à la fin, ils partent ensemble. Voilà, ils ont fait toutes les initiations nécessaires pour passer dans la prochaine étape où ils ont dit au revoir au père de Zélandine et aux figures d'autorité, sauf les déesses. Donc, voilà. Ça, c'est le côté chevaleresque, on peut dire. Il y a aussi le fait qu'il y a le masculin divin dans ce conte. On a parlé du féminin divin, mais il y a aussi, on parle du dieu soleil, il y a la figure de l'oiseau qui arrive. Donc, quand le chevalier arrive dans la tour pour donner le baiser à la princesse, il arrive au dos de l'oiseau. Donc, c'est une image un petit peu d'un homme aérien, presque divin. Donc, lui aussi, au fur et à mesure que le conte évolue, elle, c'est plutôt liée avec les déesses, mais lui aussi, il arrive à son état de divinité. Donc, c'est ça qui fait que le conte, dans sa version médiévale, je dirais, c'est matriarcal, mais encore plus de matriarcal, je dirais, c'est un conte alchimique où les deux, en fait, voilà, évoluent, masculin et féminin, s'entraident pour évoluer, pour passer aux prochaines étapes. Et voilà, une des prochaines étapes aussi, c'est symbolisé par la naissance de leur enfant, qui est clairement un enfant divin, parce que justement, les trois déesses, à sa naissance, arrivent et enlèvent l'enfant. Ils l'emmènent avec elle quelque part. Donc, ce n'est pas un enfant normal, ce garçon. Alors, ça nous renvoie un peu à tout ce que j'ai dit au début de la création et tout ça. Et ça met le conte sur un symbolique où on n'est pas juste en train de parler des créations humaines comme les enfants dans la chair et dans l'os. On est en train de parler du processus de la création en général. Qu'est-ce que c'est? Donc, cet enfant divin, ça peut être un conte, un livre, un tableau. C'est, voilà, ce qu'on crée. Et ça peut être créé dans les idées, ce n'est pas nécessaire que ça soit créé dans la matière. Et en fait, oui, une des choses que j'ai tirées de ce que vous avez dit avant, c'était cette idée de l'âme qui incarne. Et on a ça dans ce conte. Au début, les trois parcs, par exemple, les trois moïres, elles incarnent la vie. C'est un peu mystérieux d'où vient cette vie. Elle laisse la place pour que la vie vienne, pour que l'âme vienne dans le corps. Et il y a beaucoup de contrastes dans cette histoire entre corps et âme. Donc, c'est pour ça que la Vénus dit, oui, Thémis, je veux dire, la troisième déesse, la déesse de la mort, elle dit, oui, cet enfant aura un beau corps. Voilà. Mais elle va s'endormir. Donc, l'idée, c'est que oui, vous êtes matérialiste, vous avez créé un enfant matériel, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque l'esprit et c'est ça le plus important. Et c'est intéressant quand on pense à cette image qui est dure quand même de la fille, la jeune, qui est endormie. Ça reste dans nos consciences, c'est très parlant. En conclusion, je veux juste vous raconter une vraie histoire, en fait, avec cette image dedans, qui m'est arrivée très récemment. J'ai rencontré une assez vieille dame qui a eu 3 enfants et on a passé la journée ensemble à Aix-les-Thermes récemment. Et pendant qu'on buvait le café, elle a commencé à me raconter plein de choses et elle m'a raconté, en fait, ça m'a beaucoup touchée, elle m'a raconté la tragédie de sa vie, qui était qu'elle a 3 filles très, très belles, mais la plus belle de ses filles, celle qui promettait le plus, qui était la plus douée, la plus talentueuse, cette fille-là était mystérieusement tombée dans un sommeil. Au retour, elle était partie en Amérique du Sud. Et puis, elle a appelé sa mère, elle a dit « Viens me chercher ». Sa mère est allée la ramener en France et dès qu'elle est arrivée en France, elle est allée dans sa chambre pour dormir et elle ne voulait plus se lever. Elle ne voulait plus manger, plus boire, rien, ni plus parler à personne. Alors, la dame était très, très inquiète. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a appelé tous les thérapeute, et dans mon coin, il y en a beaucoup de différents thérapeutes qui font ceci, c'est ça, les soins au sel, ceci, c'est ça, mais rien ne faisait. Elle a même contacté le copain que cette fille avait rencontré, un jeune là-bas en Chili ou Argentine, je ne sais pas. Elle l'a fait venir en France pour qu'il vienne la visiter. Vous pensez? Ça va avoir un effet. Mais quand elle a dit à la fille qu'elle avait emmené son copain de l'Argentine, la fille ne voulait pas le voir. Mais finalement, ils ont arrivé à faire rentrer le garçon et il a passé du temps avec cette fille qui avait beaucoup, beaucoup maigri, d'ailleurs, parce qu'elle ne mangeait plus. Et le garçon l'a pris dans ses bras, il était très ému, mais elle a adressé quelques paroles et après, il a senti que ça avait un effet, mais voilà. Après, il est resté quelques jours, mais elle a quand même continué de refuser toute nourriture. Donc, bon, il est reparti en Argentine. Elle a fait venir des médecins et les médecins, bien sûr, ils ont diagnostiqué une anorexie nerveuse. Voilà. Donc, elle avait ce diagnostic et elle était des fois hospitalisée parce qu'il fallait lui garder en vie. Et finalement, la mère ne savait pas quoi faire. Et un jour, elle a eu comme une intuition. Et elle a su que ce qu'elle devait faire, c'est de couper le lien entre elle et sa fille. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, comme rien que je fais marche avec elle, ça ne sert à rien que je continue de faire des choses. Alors, ce qu'elle a fait, elle a organisé pour que sa fille soit en famille d'accueil. Voilà. Et elle a arrêté tout contact avec elle. De temps en temps, la famille d'accueil lui donne des nouvelles, mais elle ne l'écrit plus, ne l'appelle plus, rien. Elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend. Alors, la dame m'a raconté tout ça, juste un nouvel an, là, à Aix-les-Thermes. Et moi, devant cette histoire, je ne savais pas quoi lui dire pour la consoler, pour la conseiller. Je ne savais pas. Donc, j'ai juste écouté. Mais ça m'a beaucoup touchée. Je suis rentrée chez moi et j'avoue que j'ai prié pour cette fille. Je me dis, je me sentais moi-même impuissante. Et je voulais aller la visiter, cette fille, lui donner à manger. Elle me dit, mais ça ne va pas marcher, je ne sais pas où elle habite. Donc, je vais prier, c'est la seule chose que je peux faire. J'ai prié pour elle. Et puis, juste il y a 2 jours, j'étais dans une voiture avec cette dame et un autre ami. Et on était en train de raconter nos galères d'hiver, voilà. Elle avait des galères de chauffage et moi j'avais des galères de covoiturage. Donc, venir ici. Oh, c'est compliqué, le babacar, nanana. Et alors je lui ai dit, comme ça, j'ai dit oui, en fait, je suis invitée à un séminaire à l'aise sur la belle au bois dormant. Voilà. Et quand j'ai dit cette phrase, cette dame, c'était comme la magie. Elle s'est complètement transformée devant mes yeux et commencé à scintiller. J'ai vu ses yeux pleins de joie. Elle m'a dit, Rachel, Rachel, tu me parles de la belle voix dormant. J'ai quelque chose que je dois te dire. J'ai eu une bonne nouvelle. Elle m'a dit, hier, j'ai reçu une lettre de ma fille. Voilà. Et c'était 1 an après qu'elle avait mis sa fille en famille d'accueil. Elle me dit, j'ai reçu une lettre, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle m'aime, qu'elle pense à moi. Voilà. Et c'est la lettre que j'ai tant attendue depuis 1 an. Je suis pleine de joie. Et voilà. Et je dis, waouh, c'est super, c'est chouette. Je suis contente pour toi. Et après, elle m'a envoyé par WhatsApp une photo de cette lettre. Alors, moi aussi, j'ai lu la lettre. Et je peux vous dire, c'était écrit dans une très belle écriture. C'était comme si ça avait été écrit par une princesse de conte de fées, vraiment. C'était, voilà, l'écriture comme ça. Maman, je t'aime. Je pense à toi. Et elle avait dessiné un cœur, voilà. Et je me suis dit, bon, pour moi, c'était la naissance de l'amour et ça me fait réfléchir. Et je me suis dit, bon, anorexie, c'est un mot, mais non, c'était pas l'anorexie, c'était juste pour moi une autre version de la belle au bois
dormant. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Oui. Il nous reste peu de temps pour
le dernier. Donc alors, la méfiance de la belle au dormant.
Non. Après, Karine Mazel prendra également la parole sur la même thématique.
Donc, alors attends, du coup, il faut que je fasse voilà, comme ça. Attends.
Je vais
la redonner. Donc, moi, je suis revenue sur l'idée de cette méfiance qu'on a autour de la Belle au bois dormant et qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à raconter ou pas. Et même si Sarah Hall, c'est celle peut-être qu'on a en tête, puisque c'est elle qui réclamait la suppression de cet ouvrage dans les bibliothèques, que par ailleurs, par d'autres médias, parce qu'elle n'est pas, c'est celle qu'on a mis en avant, elle n'est pas la seule, d'autres médias ont accusé ce récit de participer à la culture du viol, le baiser non consenti, et même nous, on l'a bien vu, la naissance d'un enfant pendant le sommeil. Merci d'ailleurs Rachel, hein, parce que c'est très éclairant ce que tu as donné sur les particularités. Eh bien, en fait, bien avant le XXIe siècle, il y avait déjà des critiques dures de La Belle au bois dormant. Donc, je vais revenir sur la fin du XIXe, le début du XXe siècle, un moment que l'on peut appeler pour, enfin, où il y a eu une sorte d'esthétique qui est apparue, l'esthétique de la décadence. Donc une esthétique du délabrement, de la pourriture, du morbide et du désenchantement. Bon, ça existe encore hein, d'ailleurs. À partir de là, quelqu'un comme Willy, dans Mes contes de fées, mes contes c'est en un seul mot, dira des contes que ce sont des rêvasseries ridiculement optimistes. Le Jean de Palacio, c'est celui qui a écrit le livre La perversion du merveilleux. Il dit que pour ces auteurs décadents, le merveilleux a pour seul critère le caprice et la fantaisie. Donc à partir du moment où vous pensez que les contes, c'est des récits ridiculement optimistes, et que le merveilleux, c'est bon, du caprice et de la fantaisie, et que ce n'est rien d'autre, du coup, tout est permis. Alors, les réécritures vont se multiplier. Je n'aurai pas le temps de vous décrire toutes, mais je vais aller comme ça sur des petits points. Par exemple, chez Goffin, le château est envahi de parasites, vermiculés, de moisissures. Enfin bon, l'ambiance fantastique va complètement contaminer le merveilleux. On va changer de champ. Chez Kathleen Mendes, La Belle au lit dormant, c'est La Belle au lit dormant, ça devient une sorte de discussion sur vaut-il mieux être dans le rêve ou dans la réalité. Et c'est le refus du monde extérieur, c'est le refus de la vie qui gagne, parce que dans cette version-là, elle préfère rester endormie. Donc là, on est vraiment dans le désenchantement du merveilleux. Le merveilleux qui est une pulsation de vie et qui nous amène à vivre, là, est nié, puisqu'au départ, il est nié, en fait. Hein. Sarah Bernard va en profiter pour faire une critique du métier de comédien. Elle parlera de châteaux en carton-pâte, de couronnes fausses. Anatole France, il va mêler... dans une sorte de syncrétisme, le monde antique, le monde celtique, le monde chrétien, et puis il va donner des noms très très précis aux personnages. La princesse Aurore devient Paul-Marie Aurore. Et puis ensuite, les serviteurs se réveillent en même temps que la princesse. Ben alors du coup, ils deviennent des musiciens ambulants, et puis ils vont aller sur les routes pour se payer de quoi manger, et se réconforter devant un saladier de vin chaud. Bon, là, vous voyez, c'est le merveilleux au resto du cœur. On n'est plus dans le merveilleux. Baudelaire. Alors, attention, hein, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas que je critique, parce que, par exemple, j'adore Baudelaire et la version de Baudelaire est magnifique. Sauf que ce sont des gens qui sont vraiment des auteurs et ils sont dans une création. Leur projet, c'est de transmettre leurs idées, leurs émotions, ils ne sont pas dans la transmission. Et à partir du moment où ils ne sont plus dans la transmission, ils perdent le merveilleux. Je garde ça en tête parce que je pense à pourquoi des conteurs ne racontent plus le merveilleux. Il y a peut-être de cet ordre, c'est-à-dire que c'est un registre qui ne permet pas... En fait, moi, je trouve que ça permet une grande inventivité, mais en tous les cas... Vous ne pouvez pas changer, si vous changez en basculant dans le fantastique, en basculant dans vous faites une sorte de mélange entre les différents symboles pour porter une sorte d'union, antique, et puis bouddhique, et puis bon, parce que vous avez dans cette idée que le monde, enfin, si vous y mettez vos idées, au lieu d'être dans la portée du récit, ce n'est plus un conte merveilleux, c'est autre chose. Donc là, par exemple, chez Baudelaire, c'est autre chose. Les fées commettent des bourdes, elles songent à leurs pantoufles. Le baptême, le moment du baptême, c'est un moment où les fonctionnaires font un travail besogneux de fonctionnaires. Et tout le long du poème, il est question de politique, de basse finance. En fait, il se sert de ça pour régler, lui, ses comptes avec le monde contemporain. Donc, en basculant complètement le récit dans la modernité, il nous coupe du merveilleux. Et bon, Nicole Belmont, ben, je vous laisserai aller le regarder, du coup, là, dans l'introduction de Poétique du conte. Du coup, je ne vais pas aller jusqu'à vous lire la citation, mais elle parle de ces fées qui, dans les littératures, sont des fées, soit elles sont belles, jolies et gentilles, soit elles sont vieilles, laides et méchantes, alors que les fées de la tradition orale sont symboliques et sont ambivalentes et donc portent une complexité plus grande, en fait. Donc, pourquoi ce récit il gêne et pourquoi il plaît aussi autant, pourquoi il a suscité autant de réécritures, pourquoi certains néo-conteurs ont abandonné le conte merveilleux porteur selon d'une société rétrograde. En fait, que portent vraiment les contes merveilleux et quelles conséquences si on détruit le merveilleux? Quelles conséquences sur un conte merveilleux si on détruit le merveilleux? Bon, la réponse est presque dans la question. Et ce conte merveilleux, de quoi est-il le garant? Est-ce qu'il n'est, comme le pensaient les décadents, qu'un caprice et une fantaisie? Donc, pour ma part, je crois que vous aurez compris. Pour ma part, vraiment, je crois que le merveilleux, il est indispensable à la construction de la personne. Et s'il porte des éléments qui nous semblent amoraux, dégradants, pervers, c'est parce que, en fait, nous portons cela en nous. Hein. Et le conte, il n'est pas la source de ces éléments dont je viens de parler, il est l'image. Et ce n'est pas non plus une image de la société, c'est une image de notre intériorité. Donc, je ne sais pas, le jour où l'humanité se lèvera lavée de tout désir de domination, de mort, de faim, de rage, de peur, de colère, de tout ça, alors on n'aura plus besoin des contes. Hein. Mais en attendant, les contes merveilleux sont, je pense, vraiment nécessaires et sont un rempart à cette obscurité que chacun porte. Et moi, après cette journée qui n'est pas tout à fait terminée, parce que je vais laisser la parole à Karine Mazel, en tant que conteuse, j'ai vraiment, vraiment très envie d'aller raconter cette histoire. Voilà. Mais oui, je t'en prie.
Ce ne sera pas gentil, mais ça va. Conte suivant, on arrive à une interprétation par rapport à ce que doit être une œuvre, et qui est une interprétation. Je vais pas dire fasciste, parce que ça a l'air de dire qu'il y a de l'intangible, des textes sacrés auxquels on ne doit pas toucher. On peut avoir peut-être des variantes sur un texte, mais une trame qui est intouchable, et ça, donc.
Ah si, si, si.
Donc, ceux qui osent sortir de ce cadre-là, peut-être par nous, pourquoi pas. Cela, il faut vraiment les bannir, les haïr, parce qu'ils ne respectent pas ce qui est du sacré. Et moi, je n'ai pas le respect du sacré. C'est un peu la même chose que par rapport à ce dont on parle ce matin. La conteuse qui est scandalisée par le fait que, pour le fait de lire des contes aux enfants, quand c'est peut-être sexiste ou qu'on voudra, il faut interdire. Moi, non. Moi, je crois qu'on a le droit de pouvoir prendre connaissance de tout ce qui est produit par l'esprit humain, même si on n'est pas d'accord, au moins qu'on puisse. Bon, c'est un peu pareil. Si on prend Mein Kampf, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il fallait interdire qu'on puisse lire Mein Kampf ou pas? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on mette au pilori, parce que ça, c'est faire comme une ère, hein, comme un nazi. Ceux qui ne peuvent pas, hop, à la poubelle. Alors, est-ce que c'est pas un...
Oui, alors, mais, je te remercie de poser cette question avec tant de...
Hein,
oui, la formule en gros, c'est que j'ai une vision fascisante. Non, là, j'arrive pas à la résumer. Non, c'est pas... Non, mais en tous les cas, c'est très bien vu. Non, mais c'est très bien vu parce qu'effectivement, j'ai porté une parole et ce que tu dis là me permet d'aller un tout petit peu plus loin quand même. Je n'ai jamais dit, parce que voilà, ce qu'il reproche, c'est que je dis qu'il y a une sorte de trame intouchable. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une trame intouchable. Pas du tout. D'ailleurs, moi, j'adore le travail de Baudelaire et je pense qu'il y a beaucoup de plaisir à lire des détournements de contes. D'accord ? Je dis que quand on fait cela, ce n'est plus de la transmission et ce n'est plus du conte merveilleux. Mais ce n'est pas grave. Mais par exemple, entends ce que je te dis. Pour moi, ce que tu dis et ce que je dis, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'on peut apprécier un détournement de conte. Je l'apprécie d'autant plus lorsqu'il est mené par quelqu'un qui sait, si tu veux, franchir, transgresser les limites, nos limites, etc. C'est bien de le faire quand tu sais quelles limites tu franchis. Donc, je pense que j'apprécie davantage le travail de quelqu'un qui transgresse le genre en connaissant le genre. Et d'ailleurs, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas d'exemple précis en tête, je te le redis, pour moi, il peut y avoir autant, c'est pas une qualité, je n'ai pas défini l'œuvre d'art ou la qualité artistique, pas du tout. Je parle de la transmission du travail quand tu te mets dans une chaîne de transmission, et la littérature orale s'inscrit autour d'une chaîne de transmission. Voilà.
Quelque chose qui est important à entendre, c'est-à-dire que c'est pareil, je pense que le texte est détourné, parce que je veux dire ça, ce n'est pas du tout le problème, c'est que ce n'est pas la même fonction. On n'atteint pas la même chose, on ne va pas chercher la même chose avec un compte détourné qu'avec un compte détourné. Et c'est simplement cet endroit, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont le droit de vivre ensemble, même qui sont des choses de valeur.
Et même le même soir, et même dans le même festival, et ce n'est pas un problème.
C'est pas le même endroit.
C'est pas un problème, mais. Oui. Vas-y.
Du public, quel lien pourrait-on faire sur le processus d'institution vienne autour de ce conte? Quelqu'un se saisir
de l'individuation jungienne, mais ça, c'est une question pour Karine Mazel. Hein. Je ne voudrais pas marcher sur ces plates-bandes. Merci à tous. Alors, Karine, attends, je ne sais pas utiliser ton ordinateur.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bonjour, Karine.
Bonjour, Marc.
Processus d'individuation jungienne, très bien ça.
On a encore essayé de parler parce qu'on s'entend bien. Tu peux nous parler un petit peu?
Ouais, vous m'entendez correctement?
Comment? Oui.
Non, là, c'est quoi ça?
Peut-être tourne pour notre public.
Mais non, mais là, il y a quelqu'un qui
parle. Donc voilà, je suis Karine Mazel, je suis conteuse depuis 30 ans.
Attends.
Je blablate pour régler le son, hein.
Juste des petits soucis techniques dans un premier temps. Voilà.
Par contre, il faut vraiment beaucoup de silence parce que autant les autres personnes en visio vont bien entendre, autant nous, ça va être plus complexe.
Est-ce que là, je m'approche le plus près possible de mon écran pour que le son soit le plus clair? Est-ce que c'est bon?
Oui. Merci, Karine.
OK. Bon, alors c'est parti parce que vous devez être bien fatiguée après cette longue journée si riche. Donc, je ne vais pas répondre à la question concernant Jung, puisque je n'ai pas travaillé suffisamment sur l'approche jungienne. En général, quand je n'ai vraiment pas de connaissances, ben, je me tais. Donc, voilà. Par contre, je vais faire une intervention sur ce que relève d'après moi, hein, c'est une lecture que je propose, qui est la mienne, ce qu'elle révèle socialement la polémique sur La Belle au bois dormant. Donc, pour entrer en matière, je vais faire une petite introduction pour, en commençant sur le consensus qu'il y a depuis Freud à considérer les contes comme les rêves, comme des productions de l'inconscient. Qu'est-ce que ça implique ? Ben, ça implique qu'il y a un contenu explicite, la structure narrative que tout le monde peut reconnaître, nommer et sur laquelle on peut s'accorder. Et puis, il y a les motifs qui sont le contenu latent, qui sont soumis à interprétation. Et cette interprétation, elle est singulière pour chacun. Et donc, les contes comme les rêves, en fait, ce sont des supports de projection à notre vie psychique. Et on peut dire que finalement, ce qu'une personne ou un groupe de personnes dit d'un conte révèle davantage quelque chose de la personne ou du groupe qui parle que du conte lui-même qui tout seul ne dit rien, puisqu'on le sait, le principe du symbole, c'est qu'il est fait de deux parties et que le sens n'est complet que lorsque ces parties se rencontrent, à savoir le conte en lui-même et une personne ou un groupe de personnes qui dit quelque chose ou qui raconte cette histoire, ça fait émerger un sens. Voilà pourquoi je dis que les interprétations ne se contredisent pas les unes avec les autres, puisqu'on sait qu'une des lois de l'inconscient, c'est le principe de non-contradiction. Toutes les lectures sont valides. Et le conte merveilleux est un miroir tendu à un sujet, à une époque et à une culture pour les faire réfléchir. Alors, on va entrer dans une interprétation de La Belle au bois dormant et de ce que peut relever de notre époque cette polémique. Au passage, je m'appuie avec son accord sur les travaux de Nicole Belmont et de Pierre Péju aussi, mais que je n'ai pas consulté, mais j'ai pas mal travaillé avec Nicole. Alors, le premier point, il y aura deux points. Le premier point, c'est finalement, toute cette polémique, elle révèle la puissance interrogative des contes et elle nous invite à la réflexion et à un dialogue ouvert. Enrager contre les contes et vouloir les réformer pour une cause, c'est bien reconnaître leur puissance. Donc, voyons maintenant quel est le contenu de la critique féministe ? Comme on a déjà pas mal parlé et dans la précédente intervention sur la question de la culture du viol, je trouve que c'était très bien explicité, qu'on a peu de temps, je vais me focaliser sur la critique féministe qui dit que cette figure de la princesse endormie est une figure de la soumission féminine, de sa dépendance à la masculinité et aux hommes dans le réel. Et donc, ce serait un récit patriarcal dans la mesure où elle n'agit pas et qu'elle est dépendante de l'action du prince. Alors d'abord, je voudrais, avant de commencer à interroger cette interprétation, je voudrais dire que ce point de vue n'est pas faux. Il est juste partiel et partial, comme toute interprétation. Et ça m'amène à dire une chose, au vu des choses que nous avons partagées aujourd'hui, c'est que dans l'effort que nous avons de défendre les contes, d'agrandir notre savoir, notre connaissance, avec les contes, je crois que nous avons à nous méfier d'une posture de savoir totale et à nous souvenir que les contes nous apprennent que finalement il y a un savoir populaire, c'est-à-dire qu'un conte, quand il arrive dans une autre époque, dans une autre culture, les contes, ils ont toujours fait avec l'ignorance, avec l'oubli, avec la maladresse, et dire que une parole sur un conte, une interprétation est erronée parce qu'on n'a pas suffisamment de savoir ou de connaissance, c'est se positionner en savoir dominant et maître et discréditer la parole de ceux qui n'auraient pas ce savoir. Or, je pense que réellement, il y a à considérer la parole de chacun et chacune quand quelque chose est énoncé au sujet d'un conte. Et ça, voilà. Donc, ça veut dire que je ne discrédite pas ce que les féministes disent. Je dis simplement, c'est partiel et partial. Par contre, Ce que je conteste avec vigueur et force, c'est que la lecture féministe exclut toutes les autres, qu'elle conduise à des interdits et surtout à créer un climat de peur qui empêche la pensée, la nuance, le dialogue et qui pousse des conteurs et des conteuses ou même des maisons d'édition, des auteurs, à ne plus oser raconter des contes merveilleux. Ça, je le conteste. Vous voyez, je la nuance. Donc, cette querelle, cette polémique révèle la puissance des contes. Elle révèle, c'est mon deuxième point, les valeurs et les angoisses propres à notre époque. Et ça se manifeste dans un slogan que je trouve formidable, que les féministes ont trouvé en s'appuyant sur les contes. Et tant mieux, ça dit encore quelque chose de la manière dont les contes nous inspirent, quand bien même ils nous enragent. Le slogan est celui-ci: pas besoin de me libérer, je me débrouille toute seule. Vous connaissez ce slogan? Vous l'avez entendu? Ouh, il y a quelqu'un? Oui, vous l'avez entendu. Vous le découvrez. Comment? Vous ne le découvrez pas. Bon.
Non, je ne l'ai pas entendu.
Ah bon. Ben, en tout cas, voilà, ça fait partie des slogans qu'on trouve dans les manifs féministes que je fréquente au demeurant. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça révèle, ce slogan? Eh bien, ça révèle l'angoisse de la dépendance et de la passivité. Donc, j'ai oublié de le dire parce que c'est vrai que je suis conteuse et aussi psychologue et psychanalyste. Donc, vous allez voir comment cette double approche irrigue mon analyse. Pas besoin de me libérer, je me débrouille toute seule. Eh bien, plonge ses racines dans deux choses. Un, la dépendance originelle qui est propre à tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, leur époque, leur âge et leur culture, à savoir que quand nous venons au monde, nous sommes radicalement dépendants d'un autre, le père, la mère ou tout autre adulte, qui va venir nous nourrir et prendre soin de nous. Cette dépendance originelle, elle a une empreinte psychocorporelle archaïque qui alimente des angoisses tout au long de notre vie. Elle est, cette angoisse de dépendance, concernant l'histoire des femmes, elle est largement majorée par le fait que pendant des millénaires, les femmes ont été asservies et maintenues dans une dépendance, on peut dire, de survie. Et elle a produit des violences, dépendance aux hommes, hein, bien sûr, et cette dépendance a produit des violences inouïes. Donc, évidemment que l'émancipation féministe passe par un désir d'autonomie et d'indépendance des femmes par rapport aux hommes. Cette dépendance, nous l'avons acquise de haute lutte, nous pouvons maintenant travailler, nous sommes en capacité dans les sociétés occidentales, en tout cas l'appareil légal nous permet de travailler et de subvenir à nos besoins. Donc nous avons acquis une indépendance financière et une autonomie. Mais ce qui pointe le bout de son nez, c'est la volonté d'indépendance affective. De plus en plus de femmes disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme pour vivre. On comprend que le motif de la Belle au bois dormant les agace. Mais, là où je voudrais apporter un élément de réflexion, c'est qu'il me semble qu'il y a une confusion et que en finir avec les rapports de domination, c'est autre chose que d'en finir avec la dépendance. Et il y a là une tentation propre à la société occidentale de vouloir s'affranchir de l'angoisse de dépendance qui s'étaye, on le voit, sur une angoisse archaïque, de vouloir s'affranchir totalement de cette angoisse de dépendance en vivant dans une autonomie absolue et en niant la nécessité de l'autre. Or, eh bien, toutes les sciences humaines et sociales nous montrent que cette autonomie, cette indépendance absolue n'est ni possible ni souhaitable que l'on soit un homme ou une femme. Même le darwinisme, aujourd'hui, est relu à la lumière de l'interdépendance et non de la loi du plus fort. Et c'est là que les contes sont un peu poil à gratter, parce qu'ils ne cessent, les contes merveilleux, de nous montrer dans leur structure narrative l'interdépendance du vivant, dont les êtres humains sont une partie. Et cela va à l'encontre des valeurs ultralibérales qui fait tout dépendre de la volonté individuelle, valorise l'autonomie, la concurrence et l'individualisme. Voilà en quoi je considère que les contes merveilleux et particulièrement ce motif a quelque chose de subversif qui peut nous inviter à penser le rapport entre féminisme et ultralibéralisme. Le deuxième point, donc là c'était le point 1, l'angoisse de la dépendance. Le deuxième point qui ça révèle selon moi, c'est la dévalorisation de la passivité. Nous sommes dans une culture occidentale qui exalte les valeurs de performance et d'efficacité et qui les encourage et qui encourage aussi la concurrence et la loi du plus fort. Ce qui est négatif, c'est la passivité. Ce qui est positif, c'est l'activité. Or, ben la question se pose, est-ce que réellement être passif, par exemple dans le conte de la Belle au bois dormant, est-ce que le sommeil de la Belle au bois dormant est une soumission? Est-ce que c'est une passivité? Est-ce qu'il n'y a pas une activité passive dans ce sommeil? Et il me semble que dévaloriser la figure de la Belle au bois dormant, c'est faire allégeance à cette vision ultra-viriliste d'une culture de la performance, des actions activement actives qui seraient survalorisées au détriment des actions moins visibles, moins spectaculaires. Et nous allons y revenir ensuite. Bon, donc je vais quand même faire un aparté. On en a parlé un peu, ce qui est horizontal, ce qui est vertical, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, je ne peux pas tout dire, donc je me contrains. Voilà. J'arrive à la deuxième partie. Dans laquelle je vais montrer que, pour moi, les contes merveilleux, dans leur grande richesse et diversité, contribuent à la définition du masculin et du féminin et à la déconstruction des assignations de genre. Alors, les assignations de genre, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que je dois faire un point là-dessus?
Un petit point.
Eh bien, ce serait de dire que les femmes sont naturellement destinées à rester à la maison et à s'occuper des enfants, que les femmes sont naturellement destinées à être gentilles, souriantes, patientes, alors que les hommes seraient naturellement destinés à la prise de responsabilité et que la colère est tout à fait légitime chez eux. Ça va, vous avez compris ? C'est ce qu'on a des assignations, c'est-à-dire à partir du moment où on a un sexe masculin biologique, on devrait se comporter de cette manière. Et à partir du moment où on a un sexe biologique féminin, on devrait se comporter de cette manière. C'est ça, les assignations. Voilà. Donc, les contes merveilleux peuvent nous aider. Et donc, ces questions de déconstruction de genre et d'assignation culturelle, c'est-à-dire les obligations fantasmatiques que nous aurions à nous comporter de telle ou telle manière en fonction de notre sexe, eh bien, elles nous invitent quand même, et tout le mouvement queer travaille là-dessus, elles nous invitent à définir finalement qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Ces questionnements sont absolument formidables et fertiles. Et pour reprendre avec la Belle au bois dormant, on observe les actions et les épreuves que le prince doit affronter, souvent à l'aide de son épée, trouver la belle endormie. Et si on regarde le conte de la plume de Fier Faucon, dans lequel c'est le personnage masculin qui est endormi et le personnage féminin qui doit traverser des épreuves pour le réveiller par un baiser, donc c'est un conte russe, la plume de Fier Faucon, eh bien, si on faisait une analyse comparée de ces deux récits, eh bien, probablement que nous aurions et ça pourrait être l'objet d'un travail, mais là, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps, ça peut tout à fait contribuer à une réflexion et à essayer de cerner qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que le féminin. Puisque, dans leurs infinies variations, les contes, parfois, même dans la tradition orale, inversent les sexes des héros et héroïnes. Mais ils ne le font jamais comme ça, tout sec. En général, quand les sexes des personnages s'inversent, les actions sont transformées, ce qui est une source très fertile de méditation sur la question du genre. J'ajoute à ça que quand on a une connaissance du corpus des contes merveilleux, on se rend quand même très bien compte qu'il y a des personnages masculins et féminins qui sont tour à tour actifs, actifs-actifs, passifs, passifs-actifs, courageux, rusés, cruels, combatifs, lâches, patients, généreux, tendres, tout ça, et qu'il n'y a précisément pas de systématisme. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le personnage de Maria des Mères, encore dans les contes russes, qui est une femme guerrière. On a toute la palette de possibles des relations entre le masculin et le féminin, et entre les personnages masculins et les personnages féminins. Et tous les rapports de domination, également, ils sont représentés. Et là où je trouve que les contes merveilleux contribuent réellement à la pensée, on va dire, queer, qui s'interroge sur les liens entre sexe biologique et comportement et assignation, eh bien, c'est que il n'y a pas d'assignation sexuée systématique. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il va y avoir des personnages féminins qui vont traverser des espaces, des forêts, comme dans Pierre Faucon, et qui vont se battre, et qui vont être actives. Et puis, il va y avoir des personnages masculins endormis. Alors, évidemment, là, je vous trace ça à très grands traits, parce que c'est la fin de la journée et que le sujet serait très vaste. Mais, en tout cas, ça mérite attention, et là où je m'inquiète, c'est que le conte soit pur et simplement ou bien adapté ou bien censuré pour se conformer à une norme sociale qui est en train d'émerger, plutôt que d'agrandir notre vision et notre connaissance des histoires que sont les contes merveilleux. Et je voudrais dire aussi que, finalement, ce qui a poussé les féministes, puis le mouvement queer, à repenser le genre, c'est-à-dire les assignations, les obligations de se comporter de telle ou telle manière selon qu'on a un sexe masculin ou féminin, c'est finalement la violence des hiérarchies. Et là encore, je trouve que dans les contes, il y a une source d'inspiration formidable, parce que si on prend les structures narratives, elle ne propose pas de hiérarchie entre les actions masculines, de personnages masculins et de personnages féminins. Elle propose un récit dans lequel chacun fait sa part. Les actions du prince ne sont pas supérieures à celles de la princesse. C'est notre discours qui opère cette hiérarchie. Et donc, selon moi, la fréquentation des contes merveilleux peut réellement contribuer à la déconstruction de cette hiérarchie enfermante et violente, à savoir masculin, actif, positif, féminin, passif, négatif. Montrer la puissance du sommeil.